Verisure, tellement plus qu'une alarme.
J'attends mes vacances toute l'année. Pas question de les gâcher avec un cambriolage.
L'alarme Verisure détecte les intrus avant qu'ils ne pénètrent dans votre domicile et les agents préviennent les forces de l'ordre. Rendez-vous sur verisure.fr pour profiter de moins 50% sur nos packs. Offre soumise à condition. Un service opéré par Verisure, société agréée CNAPS.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Rémi Barret.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi comme tous les jours de midi à 14h exceptionnellement actuellement puisqu'il y a le Tour de France qui sera avec nous, intégral tour à partir de 14h. Donc nous sommes sur RMC et sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. Paul Lassène, journaliste RMC, est toujours là. Daniel Riolo, journaliste RMC également. Pierre Rondeau, économiste du sport. Et Amélie Rosic, journaliste RMC. À 13h, dans un instant donc, on va parler de la SNCF. Prix, retard, grève, la SNCF vous fait-elle détester le train? Vous nous appelez au 32-16 à 13h30, le meilleur du jour sur RMC avec notre zapping. Et puis on continue de jouer, Paul.
Et vous envoie en Allemagne pour assister au quart de finale de l'équipe de France face au Portugal. C'est vendredi et on vous propose de vivre l'expérience RMC, l'aller-retour à Hambourg avec la nuit d'hôtel, la rencontre avec les équipes d'RMC qui sont sur place avant le match et bien sûr vos deux places pour la rencontre. Alors pour ça, une seule solution: dès que vous entendez cette alerte à l'antenne, vous avez 5 minutes pour jouer en vous inscrivant. Pour ça, vous envoyez euro au 7-32-16, euro au 7-32-16, et on vous fait réécouter l'alerte. Mais
voilà, vas-y Amélie, tu le fais très bien.
Coucou, coucou.
Magnifique.
Bah, bonne chance à tous. Hein.
Alors c'est pas ça.
RMC, hein. Estelle Midi.
Mais ça sert vraiment à rien d'avoir des figures.
Bah oui.
Les réservations du jour. Selon le patron de TGV Intercité, 2/3 des places disponibles pour cet été sont encore à vendre. Paul, comment l'expliquer?
Alors déjà, c'est une annonce surprenante, Rémi. Les vacances commencent dans quelques jours. Alors pour la SNCF, ces chiffres se justifient, je les cite. Nous avons eu beaucoup de ventes anticipées pour les Jeux à l'ouverture des réservations, confirme le responsable, qui constate un fléchissement ces derniers jours. La raison, pour lui, une angoisse de venir à Paris et même en France à cause des Jeux Olympiques. Les JO,
c'était
donc
pas ce qui était prévu au départ.
Non, c'est pas ce qui était prévu au départ. Les JO d'un côté, mais pas seulement, le prix aussi, même si la SNCF évidemment ne met pas en avant cet argument. Rappelons que les prix moyens des TGV ont augmenté de 2,6% cette année après une hausse de 5% en 2023. Un chiffre qui monte à 7% d'après les chiffres indépendant du régulateur des transports. Alors, preuve que cette hausse a du poids sur le manque de réservation, la SNCF a mis en vente il y a quelques jours 500 000 billets TGV Inouï à partir de 29 euros. C'était une opération flash, comme ils l'appellent. Autre frein possible, mis en avant par les spécialistes du tourisme, l'attentisme qui est dû à la météo pourrie, hein, on peut le dire, qu'on a eu depuis plusieurs mois. L'incertitude également autour du contexte politique ou encore la conséquence de la hausse des tarifs des logements touristiques qui pèsent sur le pouvoir d'achat. Des arguments qui ne mettent pas directement en cause la politique de la SNCF qui, justement, ne se dit pas inquiète en se basant sur les chiffres de l'an dernier. La compagnie ferroviaire avait vendu 24 millions de billets grande ligne avec des TGV remplis à 80%, un record historique.
On n'est pas là pour faire du SNCF bashing. Sincèrement, moi je prends le train tous les jours, ça fonctionne plutôt bien sur la ligne que j'emprunte. Pour le coup, c'est TGV sur la ligne Nord, c'est la ligne la plus utilisée de France, donc elle est préservée, ça je le sais. Par contre, j'ai des camarades, moi je sais qu'ils prennent le TER régulièrement, les intercités, d'autres lignes où c'est la galère. Moi je rêverais sincèrement, mais ce sont des choix politiques, il y a de l'investissement, beaucoup de moyens à mettre. Je rêverais d'avoir des trains qui soient parfaitement à l'heure. Il y a des pays où ça existe, hein. Où il y a moins de grève, où les cheminots soient moins de grève parce que les cheminots soient correctement traités, bien payés, en tout cas j'en sais rien, mais en tout cas qu'ils aient des conditions de travail peut-être meilleures que qu'ils ne l'ont actuellement. Bref, on n'est pas là pour taper sur le train. Le train, moi j'en rêve, qu'il y ait des trains partout qui fonctionnent tout le temps et très bien et pas cher. Maintenant, Amélie, on vous pose la question au 32-16, prix, retard, grève, est-ce qu'aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne, la SNCF nous fait détester le train?
Alors, je vais commencer par un petit coup de gueule personnel. Je suis désolée, mais je vais commencer par ça.
Mon papa
habite à Aix-les-Bains. Je l'embrasse. Je fais le trajet Paris-Aix-les-Bains depuis plus de 15 ans. Avant le Covid, je payais en moyenne entre 120 et 130 euros un aller-retour. D'accord? Depuis le Covid, depuis 2021, je n'ai jamais réussi à toucher un billet en dessous de 185 euros. Donc, je pose la question, si jamais il y a des gens à la SNCF qui m'écoutent, est-ce que vous pouvez nous appeler pour nous le dire? Voilà. Il faut se rendre compte. 185 euros. Donc, quand je pars avec mon fils, ça me coûte 230 € pour aller voir mon papa à Aix-les-Bains.
Et qui est tout petit.
Voilà, et mon fils, il a 12 ans. À Aix-les-Bains. Donc c'est quand même, ça m'intéresse. Donc ça, c'est quand même un délire total. Je n'arrive pas à me l'expliquer. J'ai la sensation qu'ils ont peut-être réduit le nombre de trains et donc augmenté le tarif. Mais par ailleurs, j'ai pas la sensation non plus que le service soit meilleur. Au demeurant, comme toi, sur la ligne, il y a très peu de retard, je dois le dire. C'est 10 minutes maximum et c'est assez rare.
On parle de TGV.
Voilà, on parle de TGV, c'est assez rare. Mais j'ai pas la sensation que dans le même temps, les cheminots aient gagné en niveau de vie.
Ah bah apparemment, vu le nombre
donc ça, je ne me l'explique pas. Par ailleurs, donc j'ai commencé par un coup de gueule, mais je vais aussi faire une déclaration d'amour au train, puisque... On est quand même dans un pays absolument incroyable avec un maillage ferroviaire à destination des voyageurs qui est totalement dingue. Il se trouve que je suis biculturelle et non pas binationale, je le précise, avec le Brésil et que au Brésil, certes, ça fait 17 fois la France, donc ça paraît plus pratique de voyager en avion, mais ça coupe tout un tas de gens parce qu'on est quand même relativement pauvre de pouvoir voyager. Nous n'avons pas de train pour voyageurs, soit parce que ça coûte trop cher, soit parce que la corruption, j'en passe, c'est des meilleurs. On a une chance inouïe en France d'avoir le système qu'on a. Alors oui, il y a des retards.
Mais tu sais, à quoi ça
il y a des retards. Mais à un moment donné, tu prends ton mal en patience. Parce que c'est quand même génial.
Tu sais quoi ça me fait penser, ce que tu es en train de dire? Et tu as raison. Mais ça fait penser, on a un système de santé extraordinaire. On a une couverture sociale extraordinaire. On a un réseau ferroviaire extraordinaire. Sauf que oui, c'était vrai.
Oui.
Il y a 30 ans. Et on sait que notre système de santé, que notre système d'assurance, par exemple de retraite, notre système ferroviaire est en train de se casser la gueule.
Mais c'est encore très bien. C'est ça que je veux dire.
Ah oui, mais parce que
Pierre, vous chouinez alors. Pierre.
Moi, je chouine pas.
Si vous chouinez tout à l'heure.
Parle des prix.
Allez, attendez. Pierre.
Sur la régression, si je puis dire, du service à la fois des hôpitaux ou du train, il y a aussi une réduction budgétaire continue depuis une vingtaine d'années.
Il y a des choix politiques qui n'ont pas été faits.
Des choix politiques qui n'ont pas été faits. Pour revenir sur la tarification particulière dans le train à destination de Aix et qui augmente, moi j'ai la même situation pour Saint-Malo que je prends très souvent pour aller en Bretagne. En fait, la SNCF, et encore plus depuis qu'il y a cette application SNCF, applique ce qu'on appelle en économie le yield management. Le yield management, c'est une adaptation en temps réel de l'offre et de la demande et du prix.
Plus le train se remplit, plus c'est cher.
Au-delà de ça, plus le train se remplit, plus c'est cher, mais au-delà de ça, l'application sait quelles sont tes destinations préférées.
Ah, super.
L'application sait où est-ce que tu veux aller en priorité.
Donc, attends, tu veux dire qu'ils tiennent compte de tes envies,
de tes
voyages, véritablement,
tes voyages,
et de tes besoins, j'allais dire.
En gros, Amélie, quand tu vas à Aix-les-Bains, demande-moi de te réserver mes billets, ça me prend moins cher.
Et on échange.
Parce que moi, j'y vais jamais.
Moi, je prends tes billets pour Saint-Malo et tu prends mes billets pour Aix-les-Bains.
Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'application, il sait que je vais souvent à Saint-Malo ou à Rennes, ou souvent en Bretagne, donc j'ai les tarifs. Mais là, récemment, je suis allé à Rennes, j'ai payé 149 € pour aller à Rennes, 1h30 de train.
Non, mais c'est un délire.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je reçois plein de publicités pour aller genre à Laval, 22 € Laval. Pourquoi Laval? Je suis pas du tout intéressé. Parce qu'il
y a combien à pied entre Laval et Saint-Malo?
Je veux aller comment?
Oui. Et combien à pied entre Laval et Saint-Malo?
Je prends un vélo peut-être.
Ouais, vélo.
Non mais ils sont dans une logique mercantile. Ça doit être un service public. En tout cas à fond public. Malgré tout, ils appliquent une logique mercantile propre au privé. Certains pourraient mettre en avant la privatisation. Je peux dire que la privatisation, le yield management, s'applique à outrance. C'est pas cher là où les gens viennent, mais là où les gens ne viennent pas ou moins, les prix explosent. On l'a vu en Angleterre.
Mais surtout s'il n'y a pas de concurrence à côté.
Et en plus,
on n'a pas moyen de.
Effectivement, cette tarification particulière est à approcher à un système de privatisation, un système capitaliste libéral, en tout cas, un système qui fait que là où tu veux aller, tu vas payer cher, et là où tu ne veux pas aller.
Tes amis veulent mettre à bas.
Enfin, à demi-capitaliste, parce qu'il n'y a pas de concurrence réelle.
Prix, retard, grève, la SNCF vous fait-elle détester le train? Vous nous appelez au 3216. Daniel.
En attendant que l'économie socialiste dont rêve Pierre Rondeau se mette en place dans notre pays, il se trouve que moi je prends jamais le train. Je l'ai souvent dit ici, mais l'after en ce moment est en pleine opération. Nous allons depuis un mois dans les villes de naissance des joueurs de foot de l'équipe de France.
Donc tu découvres le train.
Je prends le train, mais comme jamais j'ai pris le train.
TGV.
TGV. Inouï ou machin, un truc.
Ouais, TGV.
Bon bref, j'ai fait Mâcon, Rennes, Grenoble, Bordeaux deux fois. Donc c'est un bon maillage là quand même. Hein. En tout, sur tous les trajets qu'on a fait, j'ai eu 10 minutes de retard cumulé. Les contrôleurs sont tous hyper sympas.
Première ou deuxième classe?
J'ai fait, alors, deuxième.
Allez.
Deuxième.
Allez.
Mais à Grenoble, il y a un contrôleur super sympa, il m'a installé en première.
Ah ouais.
On a parlé un peu foot et
bah tout. Voilà.
J'ai croqué la première.
Et t'as vraiment tout le monde.
Voilà, non, les passes droits. Bon, les passes droits, Daniel.
Alors, Paul, bah, on est tous d'accord.
Les passes droits.
Seulement, je l'avoue, mais je l'assume, je n'ai pas eu honte.
Alors qu'Amélie
avait du mal à le dire.
Alors qu'Amélie avait l'âge dans le couloir. Elle avait.
Ah bah oui, je voyais dans le couloir avec mon petit gosse, évidemment.
C'est normal, ils ont bonne conscience, tu penses.
Non, mais alors, Daniel,
ils sont animés de bonne conscience du matin au soir. Surtout Pierre Rondeau et ses amis.
Pour toi, c'est. Alors, allez, Daniel.
Ils sont faits tout ce que j'entends. Sur le train, je ne l'ai pas constaté. On me dit, je sais pas, je crois que tu as dit dans la présentation, il y a des places. Les trains sont bondés. C'est à l'heure, ça fonctionne bien, c'est nickel. Moi, je n'ai vu que des choses positives. Bon, après, le seul truc, vu que c'est une opération professionnelle, c'est pas moi qui paye le billet, mais je connais quand même le tarif. Et effectivement, je ne savais pas. C'est incroyablement cher, le train. Je ne savais pas que ça coûtait ce prix-là. C'est un truc de fou. Mais tu parlais du réseau en France et tout. Je lisais un article avant-hier sur l'euro en Allemagne, donc l'euro zéro là en Allemagne en ce moment. Et l'euro a mis en lumière les grandes difficultés du réseau ferroviaire en Allemagne. Moi, je pensais que les Allemands faisaient à peu près tout mieux que nous. Et ben pas du tout, parce que retard d'investissement et du coup leur train fonctionne pas bien. Donc je pense que je sais pas comme ça, mais comme on a une grande tradition de chouinerie en France, si on chouinait un petit peu moins.
Après, il y a des disparités folles, tu as raison, je reprécise quand même entre les TGV et les lignes TER, où les gens se sont battus pour maintenir des lignes TER.
Et donc, vous venez d'entendre la description de la SNCF de fonctionnement des trains en France par Daniel Riolo. Merci, Daniel. Tout va bien. Et on va demander à Magali.
Plus fort pour le contrôleur à Grenoble qui m'a fait installer en première.
Allez, on va demander à Magali si elle partage le même sentiment. Bonjour, Magali.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est à Montpellier, Magali.
Oui, oui.
Bon, vous prenez régulièrement le train, Magali ?
Alors, quand on peut, oui.
D'accord. Là, pourquoi quand on peut ? Pourquoi quand on peut ?
Parce que le prix, voilà, avec une famille à quatre, c'est juste pas possible. Là, j'ai regardé pour cet été monter voir ma famille en Alsace, donc Montpellier-Colmar. On en a pour pratiquement 1000 euros aller-retour à 4.
Oh, wow.
Mais bien
sûr, si je prends ma voiture avec le péage, j'en ai pour 80 euros l'aller, 80 euros le retour. Bah, et puis bon, comme j'ai eu la chance d'avoir une voiture avec une ligne sociale, j'aurais juste la recharge électrique de ma voiture. Et puis voilà. Donc il n'y a pas photo.
Sauf que bientôt, la voiture, il n'y en aura plus quand les amis de Pierre Rondeau seront à la tête de la
Interdit, hein. Les voitures neuves, Daniel, les voitures neuves. Tu peux encore conduire avec
Ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, Magali, ce qui est sûr, c'est que si vous aviez le choix, vous préfériez prendre le train.
Ah, bah oui, parce que niveau fatigue, 8 heures de route, je préfère aller faire un train. En plus, moi, j'ai un souvenir, enfant, on prenait même le train de nuit avec mes parents. Il faisait justement 7 Colmar, donc voilà. Et c'était des super souvenirs.
Je peux vous demander votre âge, Magali ?
40 ans.
Est-ce que vous avez le sentiment que ça se détériore, c'est de plus en plus cher et ça marche de moins en moins bien ?
Oui.
Bah.
Oui.
Ouais, il n'y a pas photo. Bah, merci beaucoup, Magali, d'avoir été avec nous. Magali qui nous appelait depuis Montpellier au 3216. On a Yvan qui est avec nous, c'est ça ?
Oui, c'est ça, Yvan.
Bonjour, Yvan, merci d'être avec nous. On est par chez moi, on est à Lille, dans le Nord.
Oui, tout à
fait. Vous faites quoi dans la vie, Yvan ?
Je travaille pour TGV, en fait. J'ai une gestion de TGV. Avant, j'étais à Bordeaux et ça fait 4 mois que je suis à Lille. Je fais 24 ans à Bordeaux et donc j'ai une vue à
Lille. Et vous êtes cheminot ?
Je suis cheminot, oui, tout à fait.
Vous êtes roulant ou pas ?
Pas du tout, je suis en gare.
D'accord, en gare, très bien. Moi, je la connais bien. L'Île-Flandre ou l'Île-Europe ?
Les deux.
Ouais, très bon, ça va, il y a 10 minutes, même pas 10 minutes à pied entre les deux, donc ça va pour le trajet. Bon, encore une fois, on l'a dit, on n'est pas là pour faire du SNCF bashing, pas du tout. Hein. Mais Yvan, est-ce que vous avez le sentiment que aujourd'hui, c'est de pire en pire ou pas ?
Oui, je vais déjà parler de la plus grosse cause de retard à la SNCF.
Ouais.
Ce sont les bagages abandonnés. Donc, la plus grosse cause, elle est à l'origine des clients.
Donc, c'est de la faute des voyageurs, quoi.
Mais c'est quoi un bagage abandonné ? C'est quelqu'un qui oublie son sac.
Mais ça me fascine, cette histoire.
Écoutons, Yvan. Allez-y, Yvan.
J'explique. En fait, à partir du moment où je ne vais pas rentrer dans les phases, puisque c'est la structure qui nous impose la gestion du bagage.
Ouais.
À partir d'un moment, on n'a plus la main, en fait. Ouais. Et c'est la police qui décide d'arrêter la circulation des trains. À partir de ce moment-là, nous, on n'a plus la main, donc on peut plus interagir. On évacue la gare, on fait plus circuler les trains. Moi, ça m'est arrivé, là, ça fait 4 mois que je suis à Lille, ça fait 4 évacuations de gare.
Déjà. Attends, parlez bien de votre téléphone, on vous entend moins bien, Yvan.
Ouais. Donc derrière, ça génère des frais. Hein. Donc hôtel, taxi, quand vous faites 100 chambres d'hôtel, des bus pour Bruxelles avec 70 personnes, des taxis, hein, donc on en met 3 dans le taxi, hein, des personnes, hein, quand vous en avez 15 à envoyer, à Doué, tu connais la région. Hein.
Mais
tout ça, ça génère des coûts.
Mais Yvan, comment vous l'expliquez, cette recrudescence de bagages, à un moment donné, comme on dit, les gens sont de plus en plus...
je pense qu'il y a toujours eu des bagages, sauf que la gestion est plus la même.
Ouais, c'est-à-dire que depuis le Vigipirate, les périodes terroristes qu'on a connues, c'est devenu.
Par exemple, à Bruxelles, ils n'ont pas la même gestion et.
Pourtant, ils ont connu la même chose.
Mais nous, on n'a pas le droit d'ouvrir, en fait. Voilà, un bagage, il y a une procédure, on n'a pas le droit d'y toucher. Bon. En fait, c'est la police.
Ça, c'est la première cause du retard. Mais au-delà de ça, Yvan, aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une vue de l'esprit, mais enfin, il y a des chiffres quand même. Les prix des billets sont de plus en plus élevés. En tout cas, ça coûte cher. Le service n'est pas toujours là. On est d'accord ou pas, Yvan?
Voilà. Alors, j'ai pas l'impression commerciale, moi, de.
Ouais.
On entend bien que la gestion des hôtels et tout ça, ça a un impact sur le prix du billet. Après, je sais pas si l'augmentation, c'est une politique. Après, moi, j'ai pas la gestion globale, mais je sais que moi, c'est moi qui fais les hôtels, tout ça. Donc,
les hôtels, c'est pour quand les passagers sont en galère, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Ouais. Mais quand vous avez 100 personnes, 40 euros, imaginez-vous que ça fait un prix, quoi. Et il y a des taxis. Ouais. Plus et il y a des bus, donc forcément ça génère un coût pour la SNCF. Après, moi, la politique, je parlais d'un procédé là, par augmentation des billets sur internet en fonction de l'occupation. Moi, je la gère pas. Moi, je vous parle de mon quotidien. Voilà, les bagages non étiquetés en plus, parce que ça pourrait être réglé facilement. Hein. Si le bagage est étiqueté, on ne peut la personne. C'est que les bagages.
C'est ce qu'ils nous disent d'ailleurs dans les systématiquement aujourd'hui dans les annonces dans le train. C'est normalement. Bah oui, mais si tu mets. Paul, tu me regardes avec gros yeux. Non, mais il a raison. Yvan, il est sur le terrain.
Non, mais tous les trains sont pas en retard parce qu'on met pas des étiquettes sur nos bagages.
Mais non, c'est pas ce qu'il te dit. Mais non, c'est pas ce qu'il te dit. Mais non, c'est pas ce qu'il te dit. Et au moins, je le crois, Yvan. Il est sur le terrain.
Bien sûr, évidemment.
Voilà, effectivement, si tout le monde respectait ce qu'on nous demande de faire. Déjà, si tout le monde coupait son téléphone quand il monte dans le train, ça serait formidable. Bon, bref.
On s'en fout, ça marche pas.
Mais
c'est le seul truc. J'ai trouvé un défaut. Enlève les petits oiseaux.
Ce qu'il nous dit.
L'internet dans le train, mais je savais pas. Mais qu'est-ce que cette merde.
Bon, bref.
Ça marche pas.
Si on était tous respectueux des uns comme les autres, comme ici. Si par exemple on se parlait pas les uns sur les autres. Donc si on était tous respectueux, on nous dit vous étiquetez votre bagage, vous mettez votre numéro de téléphone sur votre bagage. Mais il y a un bagage oublié. Le contrôleur arrive, il appelle. Voilà.
Quand tu oublies ton bagage, c'est que t'as pas de tête. C'est pas que t'as pas d'étiquette.
Il y en a plein.
Yvan, il fait sûrement très bien son travail, mais il nous explique que parce que des gens oublient leur bagage,
du coup,
j'ai de l'info.
On va devoir aller dormir à l'hôtel et parce que l'hôtel ça coûte cher. Nous, quand on va acheter nos billets pour un train dans une semaine,
Rémi, RMC avec vous est là, toujours à vos côté. Donc, c'est une étude menée par l'autorité de la qualité de service dans les transports il y a 2 ans qui disait que la première cause de retard, de l'irrégularité ferroviaire, donc de retard, c'est le vieillissement du réseau faute d'un entretien régulier. Donc c'est pas
moyen, en fait.
On est d'accord.
C'est pas le bagage
pas
abandonné, quoi.
Bagage
par ailleurs, on fait pas exprès d'abandonner son bagage, parce que c'est quand même pas hyper pratique.
Ouais, bon. Arnaud Aimé est avec nous. Bonjour Arnaud Aimé.
Bonjour.
Et merci à Yvan d'avoir été avec nous. Yvan qui nous appelait depuis Lille. Arnaud Aimé, vous êtes spécialiste du transport dans le cabinet. C'est SIA Partners ou SIA Partners?
SIA Partners.
SIA Partners. Merci d'être avec nous, Arnaud Aimé. Est-ce que c'est une vue de l'esprit? En tout cas, on l'entend très souvent parmi ceux qui nous appellent sur RMC au 32-16. Est-ce que c'est une vue de l'esprit que de dire aujourd'hui le train, ça coûte de plus en plus cher et c'est de moins en moins fiable?
Alors, il y a une augmentation régulière des prix du train sur le TGV, puisque c'est de ça qu'on parle surtout là. C'est un peu plus de 2% cette année, donc c'est une hausse qui est réelle. Alors, les trains, ils sont quand même remplis. Pourquoi? Parce que les automobiles, le carburant, les péages, ça augmente aussi et parfois plus vite. Et puis le prix des billets d'avion, lui, il explose. Donc même si le prix du TGV augmente un petit peu cette année, là, d'un peu plus de 2%, ça peut être quand même compétitif pour un certain nombre de personnes. C'est pour ça que les trains restent remplis malgré tout. Après, vous parliez à l'antenne tout à l'heure de ce qu'on appelle le yield management, c'est-à-dire la variation un peu dynamique des prix.
Ouais, on optimise, quoi.
Pardon ?
On optimise.
Oui, et pourquoi la rentabilité optimise? On parlait de privatisation, capitalisme, etc. L'activité TGV de la SNCF, elle n'est pas subventionnée. Autrement dit, c'est pas un service public. Et je suis pas militant quand je dis ça. Je dis objectivement, l'État ou les régions ne versent pas d'argent à la SNCF pour opérer le TGV et réduire le prix des billets. Donc la SNCF, elle essaie de gagner de l'argent avec le TGV. Il y a d'autres activités, genre les trains régionaux, les TER, pour lesquels c'est subventionné. Donc c'est un service public. Objectivement, une SNCF nationalisée ou pas, dans tous les cas, le TGV n'est pas un service public dans la mesure où il n'est pas subventionné par l'État aujourd'hui.
Arnaud, est-ce que le service se détériore aujourd'hui? On parle de TGV, d'intercité, de TER.
Non, on parle de plusieurs choses avec des situations assez différentes. Je pense qu'on peut croire quand même les cheminots, notamment celui qui est parlé tout à l'heure, à propos des bagages abandonnés, je pense qu'il parlait spécifiquement du TGV. Les TGV, ils circulent sur des LGV, donc des lignes à grande vitesse, qui sont des lignes quand même assez récentes et qui sont bien entretenues. Donc sur cette partie du réseau, on n'a pas trop de problèmes de fiabilité.
C'est le réseau secondaire.
Voilà ce que vous appelez le réseau classique, disons le réseau à ligne classique, où là pour le coup il y a un vieillissement depuis une cinquantaine d'années du réseau ferré. Bah, pourquoi? Parce que l'État a choisi de mettre son argent ailleurs, dans le développement du réseau routier, autoroutier par exemple. Donc il finance moins la voie ferrée. Donc il y a deux impacts. Le premier, c'est que le réseau ferré classique, eh bien, il s'est détérioré depuis une cinquantaine d'années. Alors aujourd'hui il y a beaucoup de travaux pour le remettre à niveau, mais il y a encore beaucoup à faire. Et puis la deuxième conséquence, et là ça concerne plus les lignes à grande vitesse, c'est que comme l'État met pas beaucoup d'argent, beaucoup moins qu'en Italie ou en Espagne par exemple, dans l'entretien et l'exploitation du réseau ferré, eh bien c'est les transporteurs ferroviaires qui payent davantage de ce qu'on appelle de péage, que ce soit SNCF Voyageurs ou les concurrents qui apparaissent aujourd'hui. Et ça, évidemment, ça a un impact sur le prix du billet. Donc il y a un sujet d'implication des pouvoirs publics dans l'infrastructure ferroviaire.
Il y a des choix politiques à faire, en tout cas c'est certain. Et on va avoir une nouvelle majorité à l'Assemblée, on verra ce qu'elle nous dit. Merci Arnaud Aimé d'avoir été avec nous, spécialiste transport du cabinet SIA Partners. Antoine est avec nous au 32-16. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Bon, on n'a plus beaucoup de temps, je ne vous le cache pas Antoine, mais je tenais à vous donner la parole. Vous êtes dans la Sarthe, c'est ça?
Exactement.
Et vous prenez régulièrement le train?
Quasiment quotidiennement, j'ai un abonnement avec la SNCF pour faire le Mans-Paris, donc, et un abonnement assez coûteux, hein, c'est quand même plus de 600 euros par mois.
Et comment ça marche? Il fait l'aller-retour tous les jours.
C'est un des problèmes avec un abonnement quand même de 609 euros par mois pour faire Le Mans-Paris. C'est que seulement 55 minutes de train.
Ouais.
On ne peut faire que 4 à 5 voyages par semaine.
Ah ouais?
C'est un loyer, 600 par mois.
Bon, et comment ça marche?
Ça marche pas bien. Toujours des retards. Plein de retards. Moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui n'est pas militant du tout, pas réfractaire à quoi que ce soit. Et je crois que j'ai jamais mis les pieds dans une manifestation. Je pense que si un jour il devait y avoir une manifestation anti-SNCF, je crois que ça serait ma première manifestation. en tête de cortège.
Pourquoi, rapidement?
C'est tout, c'est le prix. Rien que quand je veux partir en vacances, je ne prends jamais le train. C'est les retards. Tout à l'heure, vous parlez d'un monsieur qui nous disait que les retards étaient liés au bagage abandonné. J'en ai jamais eu. Ça fait deux ans que je fais quasiment quotidiennement c'est jamais de bagage abandonné. Moi, c'est problème de signalisation. Qui vous mettent 30 minutes dans les carreaux, une heure dans les carreaux. Vous arrivez en retard au travail, donc voilà. Et puis le comportement de...
Et moi, j'ai souvent difficulté de préparation du matériel aussi. Ils ont des difficultés pour préparer le matériel.
Pour acheminer le...
Bon, en tout cas, c'est une vraie galère pour vous, Antoine.
Oui, une galère au quotidien. Et puis aussi, certains comportements d'agents que je trouve qu'ils sont en manque de compréhension pour dès qu'il y a un petit couac, alors qu'on paye quand même des abonnements, par exemple, 600 euros par mois. Par exemple, il y a quelques semaines, même avec un abonnement à ce prix-là, je me suis trompé de train. Parce qu'au Mans, vous pouvez aller à Gare Montparnasse, et des fois aussi, vous avez des trains qui vont à l'aéroport.
C'était
sur le même quai, j'ai pris aéroport.
Ouais,
c'est
bon, ce qui peut arriver, oui.
Et du coup, j'avais pas le bon abonnement pour ça. Et on m'a mis une amende quand même.
Oh.
600 euros, j'ai voulu faire une réclamation, ça n'a jamais abouti. Oh,
il faut continuer, il faut insister pour les réclamations, ça finit toujours par marcher.
Merci.
J'ai eu le service juridique et ils m'ont dit non, j'ai fini par leur dire que vous étiez les l'entreprise la plus détestable de France, elle m'a raccroché au nom.
Envoyez-moi un mail, RMC avec vous, à rmc.fr, voilà. Je m'en occupe.
Voilà, merci Antoine d'avoir été avec nous, et on verra, on va le garder en ligne et puis on va lui donner l'adresse. Merci Antoine d'avoir été avec nous. Antoine qui nous appelait depuis la Sarthe, on vous a posé la question, prix, retard, grève, la SNCF, vous fait-elle détester le train ?
Eh bien, c'est un grand oui pour 88%
de voilà, au niveau de la communication, il y a encore du boulot. Allez, dans un instant, les Français, en direct, notre tour de France des législatives. C'est vous, on vous donne la parole. Vous en êtes où durant cet entre-deux tours ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous pensez quoi ? Eh bien, c'est dans un instant sur RMC et RMC Story. Dans Estelle Midi, à tout de suite.
RMC, midi 14h. Estelle Midi,
Rémi Barret.
Estelle, midi 14h sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. Nous sommes dans l'entre-deux-tours des législatives. Vous en êtes où ? La direction, les Hautes-Pyrénées.
RMC, les Français en direct.
Les Français en direct, on prend le pouls du pays dans cet entre-deux-tours des législatives. Et dans les Hautes-Pyrénées, on retrouve Pierre Bourgès, reporter RMC. Salut Pierre.
Salut Rémi, bonjour à toute l'équipe.
Alors
bonjour.
On est avec qui, Pierre ?
Eh bien, on est avec Benjamin et je vais pas vous mentir, on va pas tarder à prendre le café ici puisque en fait on est eh ben oui, on est dans son café tout simplement. Alors c'est un peu réducteur de dire café, excuse-moi Benjamin, mais on est dans un café espace de coworking avec une petite boutique qui vend des produits français si je me trompe pas. Donc voilà, espace un peu je pense que vous avez peut-être un petit peu l'image, espace un petit peu chaleureux,
tout à fait.
Des murs, un peu de verdure et puis des bons canapés. Ouais, nous on s'est mis sur des chaises quand même pour être un petit peu sérieux. Et donc Benjamin, 36 ans, électeur historique de gauche, il a voté Nouveau Front Populaire au premier tour, il votera Nouveau Front Populaire au second tour, et il a le casque sur les oreilles, donc il vous entend.
Ah bah très bien, bonjour Benjamin.
Bonjour à toute l'équipe.
Bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, merci d'être avec nous Benjamin. Avec Benjamin, plaisir. Vous êtes dans quel état d'esprit là, on est à quelques jours du second tour?
Bon, moi je suis un éternel optimiste, donc il faut partir là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a un contexte, la politique, qui est un peu effrayant. Voilà, donc on essaie de garder le moral, mais c'est vrai que ça devient inquiétant quand même.
Qu'est-ce qui vous inquiète concrètement ?
Bon, on ne va pas y aller par quatre chemins. C'est le score du RN, hein, tout simplement. Donc, au-delà qu'il faut que toutes les opinions s'expriment, c'est la hauteur des scores qui est très inquiétante.
Sans rentrer dans la circonscription dans laquelle vous êtes, parce qu'il y a le principe du temps de parole, vous le savez, on vous a briefé avant. Dans votre circonscription, grosso modo, le RN, il a fait combien ?
Un peu plus d'un tiers, voilà. Un peu plus de 30%. Voilà.
C'était déjà le cas avant ou pas ?
Non, ça a beaucoup explosé les dernières années, mais c'est une tendance à l'augmentation qui se dégageait sur les dernières élections. Oui.
Le SMIC à 1 600 €, vous y croyez ?
Eh bien, écoutez, pourquoi pas ?
Parce que c'est un vote de conviction pour le programme que vous faites.
Oui. Oui, bien sûr. Après, moi, je suis chef d'entreprise, donc ça paraît des fois très bizarre d'un point de vue extérieur. Ça paraît même d'être le grand écart. Mais pour moi, je pense que si je suis tout petit commerçant, en fait, commerçant de centre-ville. Si on n'est pas capable de se serrer un peu les coudes et que tout le monde ait un revenu décent, les petits commerces, on sera les premiers à disparaître. Hein, ça, on ne se fait plus d'illusions.
Pierre Bourgès, il m'entend. Pierre, tu m'entends ? C'est intéressant ce que nous dit Benjamin. Pierre, toi qui es sur place là, dans les Hautes-Pyrénées, quel est l'état d'esprit des gens que tu as pu rencontrer ?
Ben écoute, l'état d'esprit, il est assez particulier. On reste quand même dans une zone qui est un peu rurale. On a un petit peu de tout. Les jeunes, pour l'instant, sont quand même, pour certains, convaincus qu'il faut voter le Nouveau Front Populaire parce que c'est leur avenir et qu'il faut aussi. Il y a beaucoup ce projet d'immigration du RN qui fait peur pour les jeunes et qui veulent aider les autres. De l'autre côté, on a certains jeunes qui se disent non, mais moi déjà j'ai l'impression que je vais galérer. Est-ce que je vais continuer à galérer? Si on met pas sur le pouvoir d'achat, certains me disent très honnêtement, hein, si on continue à faire entrer des personnes, est-ce que vraiment je vais moi de mon côté ne pas y perdre? Voilà. Et puis alors plus globalement, il y a vraiment de tout au niveau des électeurs, mais les électeurs RN parlent, ouais, parlent ici en tout cas beaucoup d'immigration. Il faut quand même le dire. On parle d'immigration ou parfois même, et j'en terminerai là-dessus, mais parfois ils disent moi sur TikTok je le suis, Bardella, et je trouve qu'il est premier ministrable, si je peux me permettre l'expression.
Ouais, c'est un peu compris.
Ça quoi. Je sais pas trop ce qu'il a dans son programme, mais je trouve qu'il a l'aura pour être premier ministre.
Compris. Merci Pierre Bourgès d'avoir été avec nous, reporter RMC depuis les Hautes-Pyrénées. Merci également à Benjamin d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et donc les Français en direct, c'est comme ça tout au long de cette semaine, entre deux tours, avant le second tour des législatives. Allez, dans un instant, comme tous les jours, c'est la suite d'Estelle Midi avec notre zapping, le meilleur du jour sur RMC. À tout de suite.
RMC, Estelle Midi. RMC, midi 14h. Estelle Midi, Rémi Barret.
Estelle Midi, midi 14h sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. Tout de suite, c'est le meilleur du jour sur RMC.
RMC, Estelle Midi, le zapping RMC.
On commence avec Apolline Matin. Pour ou contre l'interdiction des désistements entre les deux tours? Il y aurait actuellement 150 candidats qui souhaitent se désister pour le second tour, pour faire barrage essentiellement au Rassemblement National. Mais pour le sénateur LR des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Rudulier, ces désistements devraient être interdits.
Parce qu'il y a une règle du jeu qui est clairement inscrite dans notre code électoral. Vous avez la possibilité d'être qualifié pour le second tour à partir de 12,5% des inscrits. Avec le taux de participation historique, ça a été souligné dimanche. Depuis des décennies, nous n'avions pas eu ce taux de participation et donc nous n'avons pas été confrontés à ces triangulaires. Et je pense que les désistements...
Oui, et on en aura vraisemblablement moitié moins.
Moitié moins, voire même un peu plus, puisque les appareils politiques sont encore en train de négocier circonscription par circonscription. Donc en fait, mécaniquement, on réduit l'offre politique du second tour et on maquille en fait le résultat du premier tour pour le second tour.
Amélie, d'ailleurs, ça a augmenté. Hein. Puis ça, c'était Apolline Matin ce matin. Désormais, on n'est plus à 150 désistements.
On est autour de 190.
190. Est-ce que toi, tu penses, comme ce député des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Rudulier, député LR, qu'il faudrait... c'est pas normal ces désistements quelque part.
Sincèrement, j'ai du mal à avoir une position tranchée. En tout cas, je trouve qu'il faut trancher. C'est-à-dire que porter la parole de se dire je vais porter un programme, voilà qui je suis, votez pour moi, et derrière se dire bon bah en fait non, je suis un peu mal à l'aise, en fait j'ai un peu le sentiment que c'est une façon de se boucher le nez, de pas regarder et de se défiler.
Bah puis on se met à la place de l'électeur. Regarde, on parlait tout à l'heure on parlait tout à l'heure des électeurs qui doivent, ce qu'on leur disait tout à l'heure, il faut regarder les programmes, qui est cette personne. Bah moi je me mets à la place, je suis électeur, il y a quelqu'un au premier tour. Je crois en cette personne, je crois en ça m'intéresse, son programme. Je vote pour lui, puis au deuxième, je peux plus.
Alors,
il va s'associer avec un mec que le gars détestait trois jours avant.
Il y avait un candidat qui était en triangulaire et qui a décidé, pour le coup, je crois que c'était un ensemble, je me souviens plus, à Circo, et puis tant mieux, comme ça, on n'ouvre rien du tout, et qui expliquait, en fait, ce matin, à la radio, pourquoi il se désistait, et qu'en fait, il a pris ce vote, et le fait qu'il soit arrivé troisième, comme une véritable le claque. Il disait que ça faisait des années qu'il était élu et que cette claque, lui, sa façon de l'accueillir, c'était de se dire ok, vous m'avez mis une claque, vous m'avez dit tu ne m'as pas écouté, tu n'as pas fait ce que j'attendais de toi, donc je me retire et je laisse les autres faire. J'entends aussi cette position qui me paraît pas complètement délirante. Et après, sur le fond, en termes de stratégie, ceux qui considèrent que la stratégie qu'il faut avoir, c'est faire barrage, peu importe pour qui, bah c'est une bonne stratégie, voilà.
Et c'est le choix de chaque citoyen d'ailleurs d'aller voter en son âme et conscience et en toute bonne foi pour tel ou tel candidat.
Puis le vote blanc existe, enfin.
Le vote blanc existe, ne pas aller voter, ça existe. L'abstention existe. Si tu dis, je te rejoins, Rémi, on a défendu, on a lu un programme, on a défendu un candidat au premier tour et il se désiste, bah, au second tour, personne n'est obligé d'aller voter pour le candidat d'Emmanuel Macron ou du Front Populaire ou du Rassemblement National. C'est juste voter. Moi, au-delà de ça, dans ce débat-là, ce qui est important et que je voudrais vraiment, moi je milite pour ça, c'est que on arrive à la fin de la Ve République, en tout cas du fonctionnement de cette élection. On voit bien, et Daniel le disait très bien d'ailleurs au tout début de l'émission, en disant que maintenant il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de dignité, on ne va plus voter pour ce qu'on pense et ce qu'on croit, mais on va voter contre quelqu'un. Ouais. On arrive au bout. Je suis vraiment, moi, de plus en plus pour un système à la proportionnelle, à un tour. On vote totalement pour ses convictions, pour ses idées. À la fin, on fera 10% et 15%. On aura 10% des sièges à l'Assemblée et on fera des ententes, des coalitions, des accords de parti. Mais on n'ira pas comme ça en permanence à s'opposer avec quelqu'un juste parce que c'est l'opposition.
Daniel.
Souvent, ces désistements, ça ressemble en tout cas de plus en plus là sur ces derniers jours à des petites trahisons. Donc moi, je vais effectivement dans le sens de Pierre. Je suis complètement d'accord avec lui là-dessus. Longtemps,
comme quoi
cette 5e République et ce système à deux tours, c'était pour empêcher ce qu'on pouvait appeler le bordel à l'Assemblée, parce qu'on avait ce vieux souvenir de la 4e République qui était quelque chose un peu fort dans notre histoire politique. Maintenant, il y a plein de pays qui fonctionnent autrement, avec des gouvernements qui parfois, bon, restent pas très longtemps et on remonte d'autres gouvernements. Mais là, on va probablement se retrouver face à une crise politique majeure, avec des gens qui trahissent leurs convictions pour aller s'associer avec des gens qu'ils insultaient il y a une semaine. Et effectivement, moi, je crois que la proportionnelle, eh bien, au moins, t'es droit dans tes bottes, dans tes convictions, tu votes pour ton parti, tu te retrouves à l'Assemblée, tu dis, ben moi, sur ce thème-là, je suis d'accord avec toi, on va voir si on peut faire passer cette loi. Sur ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Le plus gros des partis s'associe avec un autre pour déterminer qui est le Premier ministre. Tu votes la confiance au gouvernement et puis t'avances comme ça.
Sachant que la proportionnelle,
il va falloir réformer. La proportionnelle, c'est quand même.
Sachant Daniel,
que c'est une promesse que font tous les candidats.
Et sachant Daniel, souviens-toi.
Des années.
Et souviens-toi Daniel, que la proportionnelle, ça a été longtemps un débat. On n'en voulait pas. Enfin, certains l'ont rejeté parce qu'on avait peur que le RN soit trop présent à l'Assemblée nationale.
Tout à fait.
Bah, Mitterrand l'a testé en partie en 86 ou 7, il me semble.
C'était et pour faire monter le RN. C'était une stratégie politique pour faire monter le RN.
C'est
pour dire que Mitterrand est l'inventeur du Rassemblement national.
Et pourtant, mécaniquement, la proportionnelle, ça fait baisser les clivages, puisqu'il ne peut pas y avoir de clivage droite-gauche de la même manière.
Allez, les GG, la suspension de la réforme de l'assurance chômage, est-ce que ça peut séduire la gauche? Hier, Gabriel Attal a suspendu la mise en œuvre de sa réforme, qui devait notamment diminuer la durée d'indemnisation des chômeurs, une façon de donner des gages au nouveau Front populaire, d'après l'entourage de l'ex-premier ministre, mais qui scandalise le cheminot des GG, Bruno Poncet. Ex-premier ministre, il est toujours.
Non, mais c'est dingue. Rappelle-toi, au soir que des européennes, il dit, voilà, je dissous, machin et tout. La seule réforme que je maintiens, c'est celle-là.
Oui.
Genre, pour dire, les copains de droite, venez toujours avec moi, je suis toujours aussi bien.
Et d'un seul coup. Le deuxième tour, il y a besoin de la gauche.
Ouais, il y a besoin de la gauche. Donc maintenant, non, mais c'est. Enfin, tu vois, aujourd'hui, là, moi,
elle est un peu grosse, quand même.
Tu vois, ça fait deux ans que je suis chez vous. Je sais que Barba, ça fait plus longtemps. Ça fait quand même un bout de temps que tout le monde critique Macron en disant putain ces gouvernements.
Pas putain, on dit.
Excusez-moi, je prostituée. Tous ces gens là qui travaillent, qui sont dans ce gouvernement, ça tourne dans tous les sens, ça virevolte, ça dit blanc, ça dit noir et tout. Et là d'un seul coup, tu vois, là comme t'es dans
c'est
l'urgence.
Du pragmatisme.
Ouais, c'est plus du pragmatisme, c'est même pire que tout. C'est même plus l'opportunisme. Là t'es dans l'urgence et ben tu vois ils sont capables de tout, n'importe quoi.
Moi c'est de la panique ou c'est du pragmatisme, Pierre?
Mais c'est surtout lamentable.
Non, surtout en plus au-delà de ça, croire que un électeur de gauche irait bêtement ou naïvement immédiatement se jeter sur la Macronie ensemble parce que Gabriel Attal suspend son décret pour la réforme de la.
Ils sont peut-être prêts à faire des efforts.
Non, mais des efforts.
Pierre.
Attendez, l'électeur de gauche, et on en revient encore une fois sur cette question de conviction et d'idéologie. L'électeur de gauche qui a vécu 7 ans de Macronie avec la réforme des retraites, avec les gilets jaunes, avec la réforme de l'assurance chômage, il va pas ensuite aller mettre son bulletin avec un grand sourire pour Emmanuel Macron et pour le groupe Ensemble. Oui, il ira peut-être faire, et d'ailleurs je l'espère, il fera barrage au Front National, au Rassemblement National, mais pour autant, il ne va pas être content de voter pour Emmanuel Macron et la majorité présidentielle.
Daniel ?
Oui, c'est ce que je disais il y a deux secondes, c'est lamentable.
Ça m'inquiète, ils sont d'accord.
On change d'avis en trois jours, c'est...
Mélie.
Je sais pas, tout ce que je vois, c'est ce que je disais au début de l'émission, c'est le spectacle de l'indignité, des convictions reniées, des gens à qui on tend la main alors qu'on leur crachait dessus une semaine avant. Ouais. Moi, tout ça me dégoûte.
Amélie.
Moi, ce que je vois surtout, pas que je sois ravie de la réforme de l'assurance chômage et que je ne sois pas non ravie de sa suspension, mais en tout cas, ce que je vois aussi, c'est que toute cette période politique et la dissolution a eu des conséquences très concrètes et rien à voir, mais je pense notamment quand même à la question de la fin de vie où on était quand même sur un texte et ça c'est repoussé à quand il y a des gens la situation politique fait qu'aujourd'hui en termes de réforme quelle qu'elle soit je sais pas combien de retard on va prendre mais on va en prendre sacrément.
Charles Matin, où acheter sa baguette au meilleur prix? Pour le savoir, l'association de défense des consommateurs, l'UFC, Que Choisir, a étudié les prix de toutes les enseignes de vente de pain en France. Et Emmanuel Le Chypre nous a dévoilé ce matin les endroits où vous trouverez la baguette la moins chère, et pas forcément la meilleure.
Le verdict, eh bien, c'est que la baguette classique coûte 1,07€ en moyenne en boulangerie, 60 centimes seulement en grande distribution, sachant que la baguette est encore moins chère chez Lidl, Aldi ou Leclerc que chez Auchan, Carrefour et Système U. Si vous privilégiez la qualité, il vous en coûtera en moyenne 1,24€ pour une baguette de tradition en boulangerie, 1,27€ pour une baguette bio en grande surface. Ce surcoût par rapport à la baguette classique, eh bien, garantit notamment l'absence de congélation et de tout additif.
Amélie, tu lâches tout ta baguette?
En bas de chez moi, il y a trois boulangeries.
Ouais, t'habites Paris en même temps.
Ouais, j'habite
une boulangerie en bas de chez toi. Donc,
oui, la baguette est bonne, pas très chère.
On est à Paris. Voilà. Tu l'as payé combien?
1,30€.
1,30€.
Ah, c'est cher, 1,30€.
Bah, c'est Paris, quoi.
La tradie, moi, j'ai payé 1,10€.
Toi, t'es à Gentilly. Ouais, en banlieue parisienne.
Je suis littéralement en face de Paris. Je suis à Cité-U. Et on me dit, t'es un banlieusard.
Non, mais donc la baguette,
je suis pas dans Paris.
La baguette, mais là, je tombe des nuls.
Daniel, vas-y.
Oui, j'ai déménagé, Daniel.
Je tombe des. Pierre Rondeau n'habite pas dans le 3e arrondissement.
Non.
Plus maintenant,
non,
Daniel.
Je pensais qu'il habitait à côté
de ville. Non. C'est devenu. Il est passé de. Il est passé de bobo parisien à la banlieue rouge.
Ah ouais, mais je savais pas. Là, je suis un peu choqué, pardon.
Bon, toi, tu lâchais tout ta baguette.
Bah, la boulangerie à côté de la maison, hein, globalement, c'est là qu'on va.
Et tu
bah,
non.
Le commerce de proximité par excellence.
Mais ouais, mais encore faut-il que t'aies une boulangerie à côté de chez toi. On parlait de la semaine dernière de la facture territoriale. Non, la facture territoriale,
c'est vrai.
Il y a plein de communes en France, de villages, etc. T'en as plus, de boulangerie.
T'as les dépôts de pain, loin.
Même si elle est loin, c'est que tu vas quand même dans la plus proche de chez toi.
Oui, mais alors ma question, ça sera celle-là. Vous êtes prêt à mettre le prix pour avoir du bon pain?
Ah, ça, oui, en revanche.
Moi, oui.
Ça, oui, parce que vraiment, là, la baguette de c'est très rare qu'elle soit bonne.
Ah oui, quitte à rogner, à pas manger moins de viande,
À Paris, il y a une exagération, c'est un peu cher.
Allez.
Après, je peux comprendre, leurs coûts sont plus élevés, la boutique, tout ça.
Ah bah oui, ça c'est sûr. Le RMC Euro 2024, les Bleus qualifiés pour les quarts de finale, est-ce vraiment mérité? L'équipe de France a battu hier la Belgique 1-0, but contre socant d'un joueur belge. Ils vont donc, ces Bleus, retrouver le Portugal en quart de finale et les supporters français rencontrés par RMC à la sortie du match se réjouissaient malgré toute cette victoire.
Ouais, ça fait du bien, on a beaucoup stressé, mais bon, encore une fois, on n'a pas marqué un vrai but, toujours contre Saint-Cours, mais la victoire est là.
Ils nous ont fait exactement les mêmes matchs qu'en poule, en fait, très solide en bas, très solide au milieu, et le manque d'efficacité, en fait, devant. Mais le principal, c'est de gagner.
Incroyable, Colomani, cette entrée, elle est parfaite, m'ont fait rêver, j'espère qu'on va aller jusqu'au bout maintenant. Vive la France! Vive la France!
Désolé pour les oreilles chastes qui nous écoutent, mais Pierre Rondeau, pendant que le sujet passait, nous disait ça nous fait rêver, tu parles, on s'est fait chier pendant 90 minutes. Daniel, c'est vrai que on s'est un peu ennuyé, mais malgré tout, y a une victoire, c'est concret, on gagne 1-0, bon voilà, on est en quart de finale.
Absolument. Alors déjà pour commencer, je renvoie l'analyse du match au podcast de l'After Foot d'hier soir.
Bah, évidemment, tu fais bien.
Et oui, mais c'est la méthode et c'est la façon de jouer de cette équipe de France depuis des années maintenant. C'est sans panache, sans style et efficace. C'est le style des champs. Maintenant, il faut jamais oublier que l'équipe nationale, c'est avant tout de l'émotion. Alors, il y en a, quand on regarde les Bleus, de l'émotion uniquement provoquée par le résultat. D'ailleurs, les gens qu'on a entendus, c'est des gens qui sortent du stade. Quand tu vas au stade, tu veux voir ton équipe gagner.
Bah ouais.
Quand t'es Pierre Rondeau, t'es dans ton canapé en
à Gentilly.
Cuir, à Gentilly.
Non, pas en cuir.
T'as envie de
en Sky.
T'as envie de t'amuser. T'as envie d'avoir également du beau jeu. Et je pense effectivement que quand tu regardes jouer l'Espagne, je pense que le supporter espagnol, il a plus de plaisir que le supporter français.
Ouais.
Mais chacun son
style. Est-ce que ça peut venir, Daniel? Est-ce que ça peut venir là pour à partir des
cartes? Non,
ça
viendra pas.
Il y aura pas de déclic.
C'est un style. C'est difficile de changer de style quand tu es habitué à aller t'habiller dans une enseigne et tu mets tout des fringues, c'est compliqué. Essaye de changer de style, ça te va pas, tu reviens à ce que tu sais faire.
Je vous rappelle quand même qu'en 2018, on était champion du monde. Les matchs de phase de poule étaient les plus ennuyeux possibles, même en 2022, pareil en 2024.
Tu le sais très bien, l'équipe de France, c'est un pantacourt avec claquettes.
Très bien.
Avec ou sans chaussettes.
Mais pour l'été, mais tu sais quoi? Le pantacourt et les claquettes pour l'été, on s'en contentera. si on va jusqu'au bout.
Oui et non.
Ouais, allez,
non, non.
Allez,
c'est quand même.
Allez, c'est fini Estelle Midi pour aujourd'hui. Tout de suite, c'est l'intégrale tour sur RMC. On retrouve qui, évidemment, Christophe Cessieux. Salut Christophe.
Bah, nous aussi, on est en pantacourt et claquettes. Hein. C'est
eh bah, voilà, mais voilà.
Même le Bob Cochonou en plus.
Bah, formidable. Après 3 jours en Italie, Christophe, ça y est, on est en France. Première étape. Et alors, quelle étape hein?
Attention. Étape extraordinaire, effectivement. C'est la première étape de montagne. Alors, le peloton n'est pas encore en France. Il se trouve encore sur le territoire italien. Il va d'abord monter jusqu'à Sestrière. Ensuite, d'accord, il faudra descendre. Et ensuite, on passera la frontière. C'est donc la première étape de montagne. Et après Sestrière, il faudra s'infuser le Galibier qui est l'un des cols les plus durs évidemment de ce Tour de France, surtout très haut, plus de 2600 mètres d'altitude. La grande bagarre peut-être pour aujourd'hui, on va vivre ça puisqu'on est ensemble jusqu'à 18h pour cette quatrième étape de l'Intégrale Tour, Rémi.
Merci beaucoup Christophe, Intégrale Tour tout de suite donc, et nous, et c'est à midi, on se retrouve demain à partir de midi sur RMC et RMC Story. À demain.
RMC jusqu'à 18h,
Intégrale Tour.